Jacques Baudouin, bonjour. Daniel Bensaïd est ce matin l'invité d'Argument. Philosophe et militant, Daniel Bensaïd est l'auteur de nombreux ouvrages. Nous parlerons plus particulièrement avec Daniel Bensaïd ce matin de deux de ses livres les plus récents, Marx, l'intempestif et le Paris mélancolique, deux livres parus chez Fayard. Ni Marx l'intempestif, ni le Paris mélancolique ne sont le dernier livre de Daniel Bensaïd. Daniel Bensaïd vient de publier « Lionel, qu'as-tu fait de notre victoire ?», un ouvrage plus directement politique, édité chez Albin Michel. Le Paris mélancolique a été publié à l'automne dernier, Marx l'intempestif au début 1996. C'est, je viens de le dire, l'éditeur Fayard qui a sorti ces deux livres. Animateur en 1968 à Nanterre avec Daniel Cohn-Bendit du mouvement du 22 mars, cofondateur de la Ligue communiste révolutionnaire, l'organisation dont Alain Krivine est la figure emblématique, Daniel Bensaïd est toujours membre de cette organisation après avoir longtemps participé aux travaux de son bureau politique. Philosophe, Daniel Bensaïd est maître de conférences à l'université Paris 8. Depuis une dizaine d'années, il a accumulé quelques livres stimulants sur Walter Benjamin, par exemple, ou encore, et oui, sur Jeanne d'Arc. Mais je vous recommande avant tout son livre sur Marx. Marx l'intempestif, une lecture surprenante de Marx, aux antipodes de tout académisme et de tout dogmatisme, un livre qui rafraîchit l'œuvre de Marx sans en dissimuler les ombres. C'est que Daniel Bensaïd ne prétend pas, comme tant d'autres, nous restituer le noyau dur d'un Marx authentique dissimulé par des couches de contrefaçon. Daniel Bensaïd a choisi de nous donner une lecture actuelle de Marx. Il est allé chercher dans l'œuvre de Marx ce qui en fait encore aujourd'hui le tranchant et la verve. Bref, il a enlevé à Marx sa barbe et son barban. Daniel Bensaïd, bonjour.
Bonjour.
Daniel Bensaïd, vous avez participé à la mi-mai à Paris, une rencontre internationale qui a été organisée pour commémorer le 150e anniversaire du manifeste du Parti communiste. Et il y a un peu plus de deux ans, vous aviez publié un livre sur Karl Marx, intitulé « Marx, l'intempestif ». Alors, de Marx, quelle approche vous faites-vous aujourd'hui ? C'est vrai que Marx tend à sortir du purgatoire, mais est-ce qu'il s'agissait pour vous de retrouver un Marx originel qui aurait été recouvert par les commentaires de ses épigones et en plus par l'expérience historique du communisme réel ?
Un petit peu les deux, c'est-à-dire que on peut pas retrouver Marx indépendamment des réceptions, interprétations et diffusions dont il a fait l'objet. Et le fait est que le discours dominant à partir ou à propos de Marx a été assez vite capturé par les orthodoxies d'État ou de parti qui ont donné la grille de lecture. Alors il y a eu des lectures hétérodoxes ou dissidentes, généralement peu connues ou marginales. Alors il s'agissait donc bien des deux choses, c'est-à-dire d'une part de retrouver quand même un point de départ de Marx et certaines de ses idées qui ont été recouvertes par l'interprétation. Bon, donc on a eu des images, un Marx philosophe de l'histoire, un Marx scientiste dur, un Marx étroitement économiste. Tout ça est assez peu conforme. Je conviens volontiers qu'il y a une pluralité d'interprétations légitimes. Toutes ne le sont pas. Certaines relèvent carrément du contresens ou de l'ignorance. Mais enfin, il y a quand même eu une sorte de discours officiel du marxisme qui était assez éloigné de Marx.
Enfin, il devait quand même bien y avoir dans l'œuvre de Marx quelque chose qui permettait ses lectures, qui les autorisait.
Dans certains cas, oui. Par exemple, sur la question du scientisme, il ne fait pas de doute que Marx partage dans une large mesure l'optimisme de son temps sur le pouvoir de la science, de la technique, sur leur portée émancipatrice, sur les vertus du développement industriel. On s'affigure, mais chez Marx, c'est toujours beaucoup plus contradictoire. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas une vision unilatérale du progrès On a souvent confondu Marx et Auguste Comte. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de sympathie pour Auguste Comte, qui traite dédaigneusement et une seule fois dans une note de bas de page. Il est toujours dans la pensée de la contradiction, donc du progrès de son envers, du progrès des dégâts du progrès, la pénétration du capitalisme dans l'agriculture. Là-dessus, il a des intuitions pour l'époque tout de même assez pénétrantes. C'est aussi la dévastation, par exemple, des forêts, des conditions naturelles de reproduction. J'en fais pas pour autant un pionnier de l'écologie, il faut pas être anachronique, mais... Il est beaucoup moins unilatéral qu'on ne l'a fait. Ceci dit, effectivement, bon, une partie des interprétations qui ont durci le côté scientiste ou productiviste partent d'éléments qu'on peut y trouver. Mais ils les ont tirés de manière unilatérale en ignorant ou en oubliant tout un autre aspect qui fait la richesse, le dialogue. Marx est quelqu'un qui se chamaille avec son ombre en permanence, qui se débat avec des problèmes dont il n'a pas forcément la solution. Il tâtonne, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'avec, c'est le second aspect d'ailleurs du travail, vous, par rapport à la question que vous posiez, qui n'est pas la redécouverte d'un Marx authentique contre une usurpation, mais qui est aussi réactiver des pistes ou des lectures possibles de Marx à partir de notre présent. Il y a quelque chose auquel on peut être sensible aujourd'hui, dont on comprend qu'un lecteur de la fin du 19e siècle ou du début du 20e était beaucoup moins attentif. Mais sur les aspects écologiques ou sur les crises économiques ou sur les incertitudes de l'histoire, je pense qu'on a aujourd'hui un autre rapport à Marx qu'on l'avait le 1er janvier 1900.
Vous avez repris une partie d'une très belle formule que vous avez dans cet ouvrage. Marx se chamaille avec son ombre et se débat avec ses spectres. Mais ceci dit, quelles sont les lectures de Marx contre lesquelles vous vous élevez plus particulièrement ? Bon, l'image du Marx scientiste et productiviste, confiant dans le sens de l'histoire et dans la linéarité du progrès, c'est une image en tout cas qui pour vous est un cliché.
Qui est largement un cliché, encore une fois, bon, il faut prendre en compte ce qui, chez Marx, a pu donner prise à ce discours-là. Mais en fait, il a été transformé en orthodoxie. Par exemple, je crois que ça part pour beaucoup d'une mécompréhension assez grave, d'ailleurs, qui pourrait s'expliquer par des raisons historiques. Là, il faudrait faire un travail carrément de reconstitution de la réception de Marx. Mais je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en tout cas en France... La grande partie de la diffusion et de la vulgarisation de Marx est faite par le mouvement ouvrier, d'abord le socialisme historique, Jules Guesde, Lafargue, puis par le Parti communiste, pour une large part et avec un souci pédagogique à travers une vulgarisation du livre 1 du Capital, qui véhicule une conception extrêmement réductrice des rapports de classe, de l'exploitation, alors que de mon point de vue, on ne comprend la logique du capital que dans sa construction d'ensemble, qui embrasse bien au-delà du rapport ouvrier-patron dans l'entreprise, l'ensemble des sphères de la reproduction sociale, auxquelles nous sommes aujourd'hui très sensibles, avec les questions de reproduction, de crise de l'habitat, de crise du rapport de la famille. Bon, toutes ces sphères-là qui rentrent, en revanche, dans l'horizon du capital tel qu'il se déploie au fur et à mesure de l'œuvre de Marx. Là, il y a des lectures qui ont été pour le moins abusives ou limitées. Quant à l'idée d'un Marx prophète d'une terre promise et d'une fin de l'histoire, ça, j'ai l'impression que c'est peu soutenable quand même quand on retourne réellement au texte. C'est-à-dire la rupture de Marx avec les philosophies, ce qu'il appelle lui-même les philosophies spéculatives de l'histoire, la grande rationalisation de l'histoire universelle tentée par Kant, Hegel et la tradition allemande, c'est une rupture explicite, radicale, dans les textes de 1843-45, dans la Sainte Famille en particulier. Et après ça, Marx traite peu de l'histoire comme question philosophique. Bon, il a changé de terrain, il a changé de sujet. Il s'agit pour lui d'élaborer et de rendre intelligible le mécanisme du conflit historique. C'est autre chose que de donner à l'histoire une trame rationnelle, une espèce de grande fresque historique qui déploierait son concept comme chez Hegel. Là, je crois qu'il y a une rupture radicale qui fait que ce qui intéresse Marx, c'est le conflit. C'est pas du tout la fin, la terre promise. Il a des formules, hein, là aussi, il a encore des formules sur la fin de la lutte de classe. Mais enfin, il le désigne aussi comme le passage de la préhistoire à l'histoire véritable, non pas comme la fin de l'histoire. L'idée de la fin de l'histoire, lui, est complètement étrangère, par exemple.
Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas chez lui un fantasme social qui sous-tend sa représentation du travail et dans l'espérance qu'il a de l'abolition, de la marchandisation du travail, dans l'espérance qu'il a que l'échange marchand pourrait devenir superflu, est-ce qu'il n'y a pas quand même ce fantasme d'une société d'individus complètement libérés, autonomes et qui serait d'une certaine manière les miroirs et les expressions les uns des autres?
Il y a un passage des manuscrits de 57-58 qui peut être lu comme ça, qui apparaît d'ailleurs comme un des plus belles envolées utopiques de Marx, en imaginant l'individu futur, mais l'émancipation est celle de l'individu, c'est pas l'individu fondu dans la masse, c'est bien l'individu en tant que tel qui puisse être donc ébéniste ou pêcheur le matin, agriculteur ou poète l'après-midi et philosophe critique le soir. Donc un être complet, diversifié. Mais si on réfléchit, ce qui apparaissait et ce qui peut apparaître en première lecture comme utopique est quand même fondé sur une évolution, sur une tendance de l'évolution de nos sociétés qui, avec le recul du temps, apparaît beaucoup moins rêveuse que ça. C'est-à-dire que plus on va vers un travail socialisé, complexe, dans lequel la part de savoir accumulé est de plus en plus importante, plus les frontières entre la part de travail contraint par la division du travail et la part d'activité volontaire ou créative, bon, si on prend le travail d'un enseignant, je vous concède volontiers que c'est encore un cas privilégié, surtout dans la recherche ou dans le supérieur. Mais comment mesurer ce qu'est le travail contraint? Quelle est la frontière entre la recherche personnelle, l'invention, le travail pédagogique? Et dans de plus en plus de travaux, on pourrait avoir ce mélange où la notion de travail comme travail aliéné et contraint tend à se dissoudre dans une activité enrichie, socialement volontaire. Et ça, justement, un des problèmes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la crise du travail, c'est pas qu'il manque de travail au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire d'échange avec la nature, d'échange des êtres humains entre eux, mais en revanche, ce qui est en crise, et là aussi Marx, je suis en général assez parcimonieux et prudent pour pas abuser des termes de génie, mais il y a tout de même un point sur lequel il a vu loin, c'est d'avoir perçu dans les années 1850 que l'évolution du travail social ferait que la mesure de la richesse et de l'échange rapportée au seul temps de travail comme mesure abstraite deviendrait une mesure, le terme qu'il emploie est misérable et par conséquent irrationnel. Et en réalité, derrière ce qu'on appelle la crise du travail, c'est la crise de sa mesure irrationnelle actuelle. On ne peut pas mesurer aujourd'hui les richesses sociales accumulées, celles qu'on souhaite produire, les besoins à satisfaire, en réduisant toute activité humaine à la mesure marchande. Et je crois que c'est ça qui est derrière la crise maintenant durable, non pas une crise cyclique comme on a toujours connu, mais une crise presque de civilisation, du travail, et donc avec les effets d'exclusion, de chômage structurel et durable que nous connaissons. Là, je crois que non, c'est au contraire une vue très profonde, sous une apparence très, très utopique et très anticipatrice, qui au contraire, c'est une anticipation, mais sur des tendances fortement réelles et plutôt vérifiées.
Et dans toute sa thématique du dépérissement de l'État, dans ce qu'on a appelé la sous-estimation du politique chez Marx, est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi cette vision de l'achèvement de l'histoire et d'un ordre social pacifié où les rapports entre les individus seraient des rapports de pure expression?
Pour moi, c'est là que réside quand même le problème le plus délicat et qui prête le plus à critique sur l'œuvre de Marx, y compris puisque c'est cette année l'anniversaire du manifeste. En général, j'admets pas ou peu l'idée que Marx ne pense pas à la politique. Il pense la politique au contraire, mais de deux points de vue très particuliers. C'est-à-dire, d'un côté, il cherche à définir la politique ou à comprendre la politique telle qu'elle s'invente et telle qu'elle se pratique en dehors de l'emprise de l'État. Il ne faut pas oublier qu'on sort de la période du règne de Hegel, donc d'une pensée politique rapportée de façon très directe et quasi exclusive à l'État. Marx, est, au contraire, fouille ce qui peut être l'invention d'une politique, ce que j'appelle une politique de l'opprimé, de ceux qui sont privés ou exclus de la politique. Comment ils inventent leur forme d'accès à la politique?
Marx penserait la démocratie contre l'État?
il pense, en tout cas, un autre espace de la démocratie, celle qu'on appellerait aujourd'hui l'espace des mouvements sociaux, mais où s'invente une forme de politique. On le voit aujourd'hui, devant le discrédit de la politique institutionnelle, ben, le mouvement des sans-papiers ou des chômeurs inventent à leur manière de la politique. Ils font irruption avec leurs idées et leurs formes d'organisation sur le terrain politique. Ça, à travers le mouvement coopératif, syndical, voire les clubs conspiratifs, c'est la politique que pense Marx. Il pense également à la politique sous l'angle de l'événement. C'est un penseur extraordinairement aigu. Le tome 4 de la Pléiade lui est consacré aux écrits politiques, l'illustre parfaitement. Des guerres et des révolutions, des moments critiques de la politique. Alors, où vous avez totalement raison, c'est que le point aveugle, c'est donc pas la politique en général, c'est, et c'est très important, c'est la politique institutionnelle, y compris le rapport de la politique au droit et au juridique. On peut comprendre pourquoi, à l'époque, il y a guerre de démocratie parlementaire en Europe, une monarchie constitutionnelle en Angleterre, mais enfin, donc il est confronté surtout à des pouvoirs ou monarchiques ou le bonapartisme en France. Il est, la grande littérature politique, y compris dans le mouvement ouvrier, est liée à l'essor des formes parlementaires. C'est avec Rosa Luxembourg, avec Max Weber, Ostrogorski, Roberto Michels, mais c'est la fin du 19e, début du 20e siècle. Ça, chez Marx, c'est très peu présent et ce vide est comblé là par une espèce de postulat ou de pari sociologique. C'est que le prolétariat va se transformer de classe sociale en classe politique. C'est la formule qui est dans le manifeste, elle est assez énigmatique, elle fait de la politique un prolongement quasi naturel et organique du social. Et là, je crois qu'il y a un vrai danger, parce qu'à faire de la politique le prolongement naturel, je répète, organique du social, on peut très vite tomber dans la confusion du parti, de la classe, de l'État, dont on a connu les avatars. Je ne pense pas que ce soit les idées qui aient engendré, c'est pas le concept qui a créé le stalinisme, il y a des raisons sociales, historiques, beaucoup plus complexes, mais en tout cas, l'impensé de cette dimension institutionnelle a sans aucun doute favorisé les confusions sur ce terrain-là. Et c'est un des points sur lesquels dialoguer avec Marx aujourd'hui exige un dialogue critique et inventif tenant compte de 100 ans ou 150 ans d'histoire.
Daniel Ben Saïd, il y a aussi une autre lecture de Marx contre laquelle vous vous élevez, c'est celle qui en ferait, à propos des classes sociales notamment, au fond un sociologue des classes sociales. Pourquoi ?
Parce que je crois que c'est un malentendu. Alors peut-être là c'est une préoccupation franco-française, c'est que la France est un pays de la sociologie. Auguste Comte, Durkheim et la sociologie française. Bon, j'incrimine pas tous les sociologues, il y en a de fort respectables, mais la pensée sociologique dominante a été une pensée de l'ordre, c'est-à-dire de comment résoudre, chez Durkheim le propos est transparent, c'est comment apporter des remèdes aux pathologies sociales en évitant l'explosivité, les désordres du conflit, en fait, le fantasme de la grande révolution. Alors, et on demande à Marx, quand on veut traiter son œuvre comme vieillie, on essaie de voir si elle rend compte aujourd'hui de la description sociologique des classes sociales, des catégories socio-professionnelles. À mon avis, c'est une impasse. Il n'y a pas chez Marx d'études sociologiques au sens moderne, nous l'entendrions. Ça ne veut pas dire qu'elles soient inutiles. Hein, ce qu'ont fait Bourdieu et son école, Boltanski, Thévenot, etc., est fort utile. Mais chez Marx, vous ne trouverez pas un tableau quantitatif des classes sociales, ni une étude statistique. Bon, vous êtes bien placé en Belgique pour savoir que la statistique moderne, Quetelet, je crois que le premier congrès de statistique est de 1854, donc les instruments existaient peut-être peu, mais par ailleurs, ce n'est pas la préoccupation de Marx. Il n'aborde pas les classes de manière classificatoire, comme le fait la sociologie française, mais beaucoup plus du point de vue de la dynamique du conflit. Quels sont les groupes sociaux qui entrent dans un rapport conflictuel dont l'ossature fondamentale est le rapport d'exploitation, mais qui enveloppe, qui s'enrichit de tout le rapport de reproduction sociale. Et de ce point de vue-là, Marx s'intéresse aux grandes polarités sociales. Il ne procède pas par définition, par rangement. J'ai dit par classification, on ne trouve pas, c'est un paradoxe. On dit, Marx, qu'est-ce que ça vous évoque? La lutte des classes. Comment a-t-il défini les classes? Mais il ne les a pas définies. Problème. Bon, on peut chercher, on trouve ici ou là, deux, trois fois, une vague définition d'Engels par souci pédagogique. Mais Marx ne donne jamais ou très rarement des définitions, parce que là-dessus, il est dans un autre type de pensée qui oppose, en fait, c'est comme chez Hegel, c'est le mouvement de la détermination contre la définition statique. Donc il n'y a pas de case où mettre les classes, il y a un rapport de polarité. Du coup, les classes sont sans arrêt en mouvement de l'instance économique où vous définissez le rapport d'exploitation à la structuration sociale du partage du revenu, du conflit autour du salaire, et jusqu'à leur expression politique dans le rapport à l'État. Donc on a tous ces niveaux emboîtés de détermination du rapport de classe chez Marx, qui est et effectivement, et j'en veux pour preuve, que le chapitre sur les classes est le dernier, c'est un magnifique suspense, puisque c'est le chapitre inachevé du Capital, la plume est restée en suspens. Bon, mais, voilà, énigme.
Mais est-ce qu'il n'est pas malgré tout le théoricien de la rédemption de l'histoire par le prolétariat ?
Bon, on peut lire, enfin, surtout les textes de jeunesse. Bon, Gortz a beaucoup insisté là-dessus. Il dit Marx a d'abord inventé le prolétariat ou découvert le prolétariat comme découverte philosophique. Bon, il fallait bien un acteur pour résoudre les énigmes et les crises de cette société. Bon, le prolétariat a d'abord apparu comme un acteur philosophique avant de prendre chair et corps et sang à travers la critique de l'économie politique. Mais je crois que là, c'est une discussion tout à fait légitime sur l'évolution de la pensée de Marx. Je crois que des textes de jeunesse, la critique de la philosophie du droit de Hegel en particulier, dans lequel il y a ces magnifiques formules d'ailleurs sur le prolétariat, les chaînes à perdre, etc., et le monde à gagner. Mais je crois qu'au fur et à mesure qu'il s'engage sur le terrain de la critique de l'économie politique, il y a une avancée, disons, dans la voie d'une pensée profane. Il y a une épuration des scories religieuses qu'on peut trouver chez le jeune Marx. Est-ce qu'elles sont totalement éliminées ? Bon, peut-être pas. Il y a toujours un mélange de passion, d'espérance politique et de pensée critique. Bon, peut dire que l'idée d'une société sans classe, réconciliée, d'une humanité épanouie, d'un individu créatif, constitue un horizon, mais un horizon mobilisateur. En revanche, je ne crois pas qu'il y ait l'idée chez Marx qu'il y ait une issue fatale de l'histoire. Si l'histoire est un conflit, bon, par définition, l'issue du conflit est incertaine. Là où il y a lutte, le dénouement n'est jamais acquis d'avance. Ça peut être le meilleur, ça peut être le pire aussi. Et je crois que c'est un penseur de l'histoire ouverte et de la pluralité des possibles. Il y a un beau livre de Michel Vadet qui est paru il y a 3 ans, Marx, penseur du possible, et qui réactive cette dimension de Marx. Effectivement, une histoire pluraliste, ouverte, donc une pluralité de possibles. Cet aspect-là peut entrer en contradiction avec d'autres formules de Marx, je vous le concède volontiers, mais à la lumière de ce que nous avons connu et vécu au XXe siècle, c'est cet aspect-là qui est intéressant d'activer. La lecture n'est jamais neutre. Bon, on cherche à souffler sur des braises, à attiser certaines, d'autres nous intéressent moins aujourd'hui.
En tout cas, s'il y a quelque chose qui peut rester actuel, c'est bien Marx critique du capitalisme, mais pourtant, vous critiquez une autre vision de Marx, qui serait d'en faire, au fond, le théoricien d'une science de l'économie. Alors, c'est un paradoxe ?
Ben, non, c'est pas un paradoxe, mais pour lui, le capital, justement, se comprend, notamment dans ses fondements et ses mécanismes économiques, mais le capital n'est pas un phénomène économique qui fait l'objet d'une théorie économique. Le capital, le livre, là, pour le coup, n'est pas un manuel d'économie politique, c'est une critique de l'économie politique et de ses limites. Et le capital, le titre du livre, c'est un personnage, c'est le vampire universel. Bon, c'est l'objet qui devient sujet et auquel on est soumis, subordonné, c'est un peu le golem qu'il s'agit de détruire. Il faut effacer l'alpha qui porte sur le front. Donc bon, ben voilà, et qui s'effondre. Alors, à partir de là, je ne pense pas qu'on puisse se ranger Marx parmi les économistes. Certainement, il a apporté beaucoup à la critique de l'économie politique. Je dis aujourd'hui, on peut penser contre Marx. Bon, beaucoup le font. En tout cas, on ne peut pas penser sans Marx, parce qu'il a pensé les traits fondamentaux d'une époque qui est encore la nôtre. Il les a pensés à un moment où ces traits étaient en devenir, souvent esquissés, où la production marchande, après tout, ne dominait qu'une petite portion du globe, alors qu'aujourd'hui, elle s'est emparée de l'intégralité. De ce point de vue-là, l'actualité de Marx, je crois, est indiscutable et flagrante dès lors qu'on sort de la mauvaise foi ou de la polémique à court terme. Mais je crois que c'est une pensée de la subversion, donc c'est pas une théorie économique parmi d'autres. Une critique de l'économie politique, c'est comment renverser la domination du capital en même temps que le comprendre. Les deux sont indissociables. C'est d'ailleurs un des dangers aujourd'hui. C'est une espèce de réhabilitation de Marx fréquentable à condition qu'il reste académique. Bon, c'est un type brillant, c'est un philosophe capable, on trouve ça. D'ailleurs, il est dans la Pléiade, son avenir est assuré. Bon, c'était un économiste perspicace. Quel dommage qu'il ait fait de la politique, en gros. Oui, mais alors justement, là, ça nous ramène au présent. Heureusement qu'il a fait de la politique, parce qu'à force de dénigrer la politique, on la laisse à Le Pen ou à Maigret, il vaut mieux s'en emparer.
Daniel Ben Saïd, vous venez de publier un livre plus politique qui s'appelle « Lionel, qu'as-tu fait de notre victoire ?» Mais après Marx l'intempestif, vous avez publié un autre livre qui est sorti l'automne dernier qui s'appelle « Le Paris mélancolique ». Alors, s'il y avait une transition entre Marx l'intempestif et le Paris mélancolique, c'est la question de la discordance des temps, qui est aussi le titre d'un autre livre que vous avez publié, puisque vous faites de Marx, et vous en avez parlé, au fond, un penseur de nouvelle écriture de l'histoire, qui aurait déjà eu l'intuition, en tout cas, de la discordance des temps, qui s'est aujourd'hui profondément accélérée. C'est vraiment le thème du Paris mélancolique. Le thème du Paris mélancolique, ce sont les métamorphoses du temps, les métamorphoses de l'espace, de ces cadres dans lesquels s'inscrivaient certaines formes de politique. Ces formes de politique sont-elles aujourd'hui encore possibles? C'est la question que vous posez dans ce livre. Mais quelle réponse lui donnez-vous? Est-ce qu'on est dans une crise du politique dans son entier ou dans une crise de certaines formes que le politique avait pu prendre ?
La politique et le politique, comme vous voudrez, en tout cas, est toujours rapporté à des conditions précises d'espace et de temps. Ça, c'est une banalité. Depuis la politique d'Aristote, Aristote est très méticuleux pour définir la bonne dimension du territoire qui permet à la cité de s'assembler ou alors dans la manière de définir la durée des mandats et leur rotation. On est toujours dans la politique sous cette double condition temporelle et spatiale. L'organisation des mandats et de la délégation et le territoire où s'exerce une souveraineté. Alors effectivement, bon, je pars dans le Paris mélancolique, bien sûr, du constat, la discussion courante sur la mondialisation, les bouleversements en cours des échelles de temps et d'espace. Alors, de temps, dans la mesure où le temps politique, qui est un temps, je dirais, moyen, c'est le temps de la délibération, du choix démocratique, c'est le temps des mandats électifs, alors que, de plus en plus, ce temps-là est débordé, d'abord par l'instantané. Il y a un nouveau rapport de l'information à la politique et même du temps juridique aux politiques. Donc, ces temps-là ne sont pas les mêmes et leur rapport se modifie. Et puis, il y a de plus en plus aussi un rapport contraignant du politique au temps long, avec la découverte notamment du problème écologique. Bon, là, on engage des responsabilités sur la durée qui est, bon, le stockage des déchets, c'est un problème à l'échelle de centaines ou de milliers d'années, alors que la responsabilité des politiques est à échelle de 5 ou de 7 ou de 10 ans. Et puis, sur les territoires, bien évidemment, on voit avec la mondialisation que l'idée finalement simple qu'il pouvait y avoir un État, un territoire, une économie, un marché, que tout ça faisait un ensemble à peu près homogène, aujourd'hui, on a un enchevêtrement extrêmement compliqué d'espace économique, juridique, écologique, informationnel avec Internet, bon, linguistique. Bon, ce chevauchement d'espace-là. Alors, est-ce que, justement, dans ce bouleversement en cours, la formule de Hannah Arendt, le risque que la politique disparaisse complètement du monde, qu'elle s'efface derrière d'un côté des automatismes économiques, d'un autre côté des consolations morales ou des formes juridiques, mais que le temps et l'espace de la délibération commune, de l'être ensemble, du lieu et du temps dans lequel se décide le présent et l'avenir commun, est-ce que ce risque n'est pas plus actuel que jamais et ne prend-il pas des formes nouvelles? C'est une vraie inquiétude. Et je crois que derrière le discrédit du politique, il y a toutes les affaires quotidiennes, de la corruption, des affaires, du discrédit des partis. Mais je crois que plus fondamentalement, il y a ce doute-là, même s'il n'est pas conscient ou explicite, c'est quel est le bon rythme et le bon espace aujourd'hui de la politique? À quelle échelle peut s'exercer une souveraineté, un contrôle effectif? Pour notre part, bon, ça fait un certain temps qu'on a bien compris que les États nationaux devenaient trop étroits, qu'ils étaient appelés à se dépasser. Et peut-être avons-nous imaginé, par exemple, l'avenir européen comme une sorte de simple agrandissement des États-nations devenus trop limités et comme la bonne échelle, mais qui reproduirait à un niveau un peu supérieur les mêmes mécanismes ou le même rapport d'harmonie, un territoire, un État, des mécanismes. Aujourd'hui, j'en suis plus convaincu. Il est possible qu'il faille imaginer justement une distribution des fonctions de souveraineté, des attributs, qui ne fassent pas justement une unité aussi, qui ne reproduisent pas l'État-nation un peu plus grand, mais qui soit une distribution de compétences juridiques, économiques, politiques. Peut-être, autant je suis critique sur les traités de Maastricht, d'Amsterdam, etc., bon, ça fait partie du bouquin dans le Paris mélancolique, notamment il y a une interrogation sur l'Europe, mais même si elle apparaît un peu technocratique, la notion de subsidiarité qui a été avancée cette occasion-là, on pourrait peut-être la décliner dans un sens radicalement démocratique, dire bon ben oui, on peut distribuer les niveaux de décision en partant du plus bas, et du coup que des formes de démocratie participative ou directe au niveau le plus près de la localité, de la région, voire de l'entreprise, puissent s'exercer avec des pouvoirs de veto, de blocage, même si ça retarde. Alors après, est-ce que la politique peut prendre son temps ? Quel est le rapport entre le temps politique, le temps de réfléchir, de libérer, de délibérer ? On parle beaucoup de moratoire. Dans tous les débats sur la bioéthique aujourd'hui, on se heurte à des questions où il faut savoir prendre son temps, ou sur le nucléaire. Et en même temps, ben, on voit aussi avec des épidémies l'idée de l'urgence. Il y a la tentation et les pressions commerciales, y compris, par exemple, pour mettre sur le marché des médicaments peu testés ou peu vérifiés. Bon. Et l'appel à l'opinion et au marché permet, là encore, de bousculer le temps de la décision politique ou de l'expérimentation. Mais est-ce qu'on sera assez mûr, assez raisonnable pour préserver tout de même cette moyenne durée qui peut... Bon, je crois que l'instantané serait une négation, l'instantané généralisé, il est déjà présent dans le militaire ou dans l'information, serait une négation du politique. C'est pas joué du tout. Hein. Moi, j'en suis un petit peu à réfléchir à des pistes. Il ne faut pas y réfléchir à vide. Ça dépend de ce qui s'invente, notamment dans les mouvements sociaux, dans l'activité politique. Mais la question est assez angoissante. Et je crois que si on veut aller à la racine des choses, derrière le débat récurrent maintenant sur la crise du politique, il y a bien une crise beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine.
Mais est-ce que vous êtes, par exemple, partisan, comme pouvait l'être Hannah Arendt, devant la crise de la politique démocratique représentative, d'une démocratie des conseils ? C'était l'expérience qu'elle exaltait à travers, évidemment, l'expérience russe, l'expérience hongroise, l'expérience espagnole, notamment.
Par tradition, par ma tradition politique, bien évidemment... c'est un point d'accord avec Hannah Arendt, c'est activer les formes de démocratie les plus directes, réduire, ce qui veut dire... Il y a un malaise et probablement un malentendu avec le vocabulaire, c'est-à-dire démocratie directe ou représentative. Alors, qui présente un double inconvénient, parce que bon, on ne peut pas imaginer une forme de démocratie sans un élément de délégation de pouvoir et de mandat. Le problème n'est pas de déléguer du pouvoir, il y a toujours délégation. Le problème, c'est quels sont les mécanismes de contrôle ou de rappel. Y compris, on a souvent fait à Lénine le procès selon lequel il avait l'idée d'un mandat impératif qui annulerait finalement toute délibération. Parce que si une assemblée se réunit ou rassemble des gens qui sont tous liés par un mandat impératif, il ne peut pas sortir de volonté commune, décision commune. Bon, on a une addition de corporatisme. D'ailleurs, des gens ont brillamment développé la thèse, comme Marc Ferraud, en disant un système de démocratie directe compris dans ce sens-là, serait tellement paralysé qu'inévitablement, il crée les conditions de surgissement d'un corps bureaucratique qui, lui, apportera la volonté générale qui fait défaut. Il viendra coiffer les corporatismes qui se neutralisent.
On ne pourrait même pas gérer les HLM en fonction de l'intérêt général.
Non, exactement. Donc je crois, au contraire, il faut penser que démocratie directe n'annule pas le problème de la représentation de la délégation, mais doit conduire à penser de manière très méticuleuse, parce qu'on a aussi l'expérience dans le siècle des phénomènes bureaucratiques et de la professionnalisation du pouvoir. Donc, comment réduire, on ne peut pas l'abolir par décret, mais la division du travail, comment réduire la professionnalisation du politique, comment exercer un contrôle sur des mandats. Et ça, on est dans le discours depuis la Révolution française, sur le droit de rappel des élus par leurs mandants, etc. Et le quiproquo existe aussi de l'autre côté, parce que démocratie directe, bon, On a l'impression qu'elle se tient un petit peu à ras du sol, dans l'horizon du village, du patelin ou du quartier. Bon, non, je crois qu'on peut trouver des formes participatives beaucoup plus larges. Hein. Là, alors, je sais la critique qu'on peut faire, c'est que dans les crises révolutionnaires, c'est des moments brefs en général. La Commune de Paris, mais ça a duré quelques semaines. Les Soviets en Russie, mais ça a duré quelques mois et encore, leur période de vitalité. Mais il est possible, même dans les cadres institutionels, moi je connais bien l'expérience de Porto Alegre au Brésil, où la mairie, gérée par le Parti des Travailleurs, est gérée maintenant depuis 12 ans, avec une tradition d'ailleurs qui était probablement venait culturellement de plus loin. Il y a eu une immigration anarchiste italienne dans cette région du sud du Brésil. Il y a eu le film de Comoli il y a quelques années, La Cecilia, ça se passait dans le coin, etc. Il y a une vie associative de quartier extrêmement vivace. Et il y a un rapport là assez curieux qui s'est établi entre l'institution municipale, qui obéit à des règles de droit public existant à l'échelle de l'État, mais qui se subordonne à une espèce de conseil des délégués de quartier chaque année pour la vote du budget, sa ratification. Il y a une espèce d'échange entre l'institution et une forme participative ou directe, on pourrait dire. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut creuser en évitant, alors, en privilégiant tout ce qui est au plus près du terrain, parce qu'aujourd'hui, justement, vous évoquiez la crise de la politique, mais on trouve d'autant plus dans le vocabulaire un souci de proximité, de local, c'est des mots qui ont un gros succès récemment, mais qui marquent un souci de ressaisissement de la politique qui échappe dans des lointains qu'on ne maîtrise plus. Donc il faut bien essayer de conjuguer ces formes directes, ce qui n'abolit pas les formes par ailleurs institutionnelles. Bon, en France, on a un débat aujourd'hui sur la réforme des institutions. Lionel Jospin s'est taillé un certain succès en traitant le Sénat d'anomalie, en quoi il a tout à fait raison. Mais si on veut maintenir une double chambre, pourquoi pas? Mais on pourrait penser à la place du Sénat, qui est effectivement un archaïsme très peu représentatif pour le coup, une chambre associative et syndicale qui a un contre-pouvoir, qui soit un contrepoids effectif par rapport à une forme d'élection de députés qui représente des unités territoriales. Mais tout ça est imaginable, il s'agit d'inventer. On est obligé de s'engager dans une histoire parce que le monde tel qu'il est, tel qu'il va, n'est pas plus acceptable qu'hier. À certains égards, il est plus insupportable même. Et en même temps, ce que nous avons acquis, peut-être même par rapport à 68, puisqu'on a les 30 ans maintenant pour mesurer, c'est que cette histoire que nous voulons faire, sans certitude d'y parvenir, se fait sous aucune garantie. Et bon, il n'y a pas de science de l'histoire avec un mode d'emploi et qui nous dise comment ça va finir. Quand j'essaie de tirer les leçons, enfin bon, modestement, mais de dire avançons dans une laïcisation, une vision profane de l'histoire. Bon, c'est ça. Bon, mais sans tomber dans la paralysie de la volonté, sans que le doute devienne un prétexte à l'inaction, parce que on est embarqué, oui, d'où la figure de Pascal.
Justement, alors c'est la dernière question. Pourquoi ce titre, le Paris mélancolique, puisque dans le mot Paris, c'est quand même bien de politique qu'il est question, et de Paris politique. Mais pourquoi mélancolique?
Le Paris, c'est assez clair, je le dis d'ailleurs, j'invente pas. Je me suis inspiré d'un texte de Lucien Goldman qu'on lit moins, trop peu à mon goût aujourd'hui, sauf peut-être le Dieu caché, mais enfin il y a d'autres textes, et qui faisait du Paris de Pascal une figure beaucoup plus générale de la condition de l'homme moderne, justement. Si Dieu s'est caché sous toutes ses formes, histoire divinisée, science divinisée, si le Dieu est caché, on est dans le registre du Paris. Bon. Et il en faisait donc une image générale de la condition moderne, je trouve que c'était très pertinent. Alors, pourquoi mélancolique? Alors là, effectivement, on m'a souvent posé la question. Même l'éditeur, au début, Rochinien, c'est quand même pas très mobilisateur, Paris mélancolique. C'est joli, mais est-ce que ça va faire vendre? Parce que quand même, l'éditeur est éditeur. Ça va pas démobiliser le lecteur, l'acheteur et le militant. Voilà. Alors, non, parce que... Enfin, j'espère que non. La mélancolie, elle désigne quelque chose de très précis en la circonstance, c'est que finalement, justement, ça renvoie à la discordance des temps. On n'est jamais dans l'action historique, on n'est jamais dans une situation où tous les temps concordent, où tout le monde est au rendez-vous au bon moment. L'histoire se fait justement dans ces grincements, et dans ces désaccords ou dans ces disharmonies du temps, et à travers les crises. C'est une extraordinaire lucidité sur le divorce entre l'impératif de l'action et les chances de sa réussite, entre le nécessaire et le possible, ou le probable. Il faut agir, et en même temps, les conditions ne sont jamais mûres pour accomplir totalement le projet que l'on vise. Et pourtant, il faut agir quand même. Et donc, voilà, c'est une sorte de lucidité dans l'action et de lucidité sur les risques de l'échec, sans pour autant retourner à ses foyers, à ses pantoufles ou à sa niche écologique. Pas écologiste, mais écologique.
Eh bien, Saïd, je vous remercie.
Daniel Ben Saïd était ce matin l'invité d'Argument. Je rappelle les titres des livres de Daniel Ben Saïd, Marx, l'intempestif et le pari mélancolique. Deux livres publiés par l'éditeur Fayard. Et puis, Daniel Ben Saïd vient aussi de faire paraître un autre livre intitulé « Lionel, qu'as-tu fait de notre victoire ?» chez Albin Michel. Dimanche prochain, c'est Jacques de Fourny qui sera l'invité d'Argument. Jacques de Fourny est professeur d'économie à l'Université de Liège, où il dirige le Centre d'économie sociale. Il vient de co-diriger un ouvrage collectif intitulé « Insertion et nouvelle économie sociale ». Il nous en parlera donc dimanche prochain. Philippe Piette m'a aidé à réaliser ce numéro d'Argument. Argument est une émission de Jacques Baudouin. L'adresse d'Argument, RTBF Namur, 8 avenue Golanvaux à 5000 Namur. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau dimanche. Au revoir.